ouais.
Mais elle est revenue de sa chambre. Un chignon. Tu sais, des petits chignons en pétole.
Pétole.
Ouais. Alors, disons, on dit des croissants, là. Comment on dit un escargot.
Ben, merci d'être là, en tout cas. On communiquera donc peut-être avec une petite modif sur l'horaire à reprendre. Mais merci à chacun, chacune d'être là. Je précise que donc, l'ensemble de ces ateliers bibliques sera enregistré. Et puis en tout cas, pour toutes les fois où j'interviens, il y aura bien sûr des notes complètes à disposition, comme d'hab. Pour ceux que ça intéresse, il faut juste me le signaler. Comme dit, j'aimerais, nous aimerions que cette série d'ateliers bibliques ne soit pas que théologique, mais que ça produise entre nous de l'émulation, du partage, de l'arrivée d'idées, des questions. On va aborder des points des fois très pointus. Je pense à cette fois, par exemple, où on parlera de l'accompagnement des mourants ou du secret professionnel. Voilà, on voudrait avoir zéro tabou autour de ces thématiques et il ne faudra donc pas hésiter, si le cœur vous en dit, à prendre la parole. Et puis, voilà, à chaque fois, à l'exception de cette fois, l'idée, c'est d'avoir un apport théologique en première partie et puis une dimension peut-être plus pratique, concrète, en seconde partie. Par exemple, quand nous parlerons théologiquement de la question de la libéralité dans l'Église, notre cher trésorier Michel Serex sera avec nous pour nous expliquer, nous détailler le fonctionnement dans notre Église locale. Même chose, par exemple, quand on parlera de la gestion des locaux, il y aura des représentants du groupe bâtiment pour nous rappeler peut-être certaines choses. Donc toujours un apport théologique et puis une dimension pratique. Ça va pour vous ? J'aimerais prier alors. Cher Seigneur, on est reconnaissant pour ton amour, pour ta grâce. On est reconnaissant pour cette semaine sainte. Nous nous souvenons où elle t'a mené et ce qu'elle a impliqué, ce qu'elle implique pour notre salut, pour la rédemption du monde. Merci d'être aujourd'hui celui qui siège dans les cieux, celui qui règne. Nous sommes reconnaissants de ce que tu présentes nos prières au Père. Et c'est pourquoi nous nous adressons à lui dans ton nom, Jésus. Merci de nous encourager au travers de ces soirées. Permets, Seigneur, qu'elles soient pertinentes, utiles pour notre vie d'église locale. Dans le nom de Jésus. Amen. Le titre de la série, ben vous l'avez peut-être vu sur le flyer, c'est « Vivre l'Église, vive l'Église ». On va donc parler beaucoup d'Église pendant quelques mois, j'espère pas trop. Quelques-uns m'ont fait part de leurs soucis, mais je crois qu'on peut parler d'Église et parler du Seigneur qui nous unit. La matière que nous allons aborder au cours de ces soirées de réflexion, de ces ateliers bibliques, relève de ce qu'on appelle la théologie pastorale. C'est une matière qui est une charnière entre la théologie objective, la théologie littéraire, la théologie scientifique d'une part, et l'expérience pratique de la vie d'Église d'autre part. Théologie pastorale. C'est une théologie, ça veut dire qu'elle va s'inspirer, j'espère le plus souvent possible, de la parole de Dieu, théologos, et elle a le souci de la cohérence avec les textes bibliques, avec ce qu'on appelle, nous, comme chrétiens évangéliques, la doctrine systématique. Donc une théologie, mais une théologie pastorale. Au sens où elle va s'occuper de la vie de l'Église à proprement dit, du vécu de l'Église, des ministères, des services qu'on trouve dans une Église, et puis des personnes telles que vous qui aiment l'Église, qui est engagée dans l'Église et qui servent l'Église. Une théologie pastorale. Vous m'interrompez quand vous voulez, hein. J'ai enseigné la théologie, non pas pastorale, mais biblique, pendant 8 ans à l'IBG. Et c'est une matière qui m'a beaucoup plu, parce qu'elle traite de ce qui concerne les origines, l'authenticité, la cohérence, le développement progressif du message de l'Évangile. Parce que je fais partie de ceux qui veulent baser leur vie, ma vie, sur ce qui a été enseigné, sur ce qui a été dit, sur ce qui a été révélé, sur ce qui a été raconté par la Bible. Certaines questions techniques, quand on fait de la théologie, suscitent des divergences légitimes. Mais le débat finit toujours par tourner autour d'une vérité objective qui est l'œuvre et la personne du Seigneur Jésus-Christ. L'ecclésiologie, qui est notre terme et le terme technique, hein, je vais être un tout petit peu technique au début, procède de la même manière. L'ecclésiologie, c'est la doctrine de l'Église. Et on va réfléchir donc à ce que dit la Bible au sujet de l'Église. Comment est-ce qu'on peut faire un ensemble cohérent avec des textes qui, somme toute, sont bien éparpillés à droite et à gauche? Comment essayer d'intégrer tous les aspects? Qu'est-ce qui va relever des circonstances particulières d'une Église? Par exemple, celle de Corinthe. Qu'est-ce qui est particulier à Corinthe? Et qu'est-ce qui a une valeur permanente? Enfin, l'ecclésiologie, elle débouche sur des terrains pratiques. Comment vivre au XXIe siècle ce qui nous est dit des églises du premier siècle? Ce n'est pas si évident. Vivre au XXIe siècle en fonction de ce qui a été dit à des églises du premier siècle. Comment prendre les valeurs absolues de la parole de Dieu et les appliquer aujourd'hui? On peut être d'accord sur la situation du premier siècle sans être d'accord sur la mise en pratique actuelle. Par exemple, est-ce qu'on peut être d'accord sur une situation du premier siècle sans être d'accord sur la pratique actuelle? Verriez un exemple? Alors, tout ce qui est coutumier, par exemple, est-ce qu'on trouve des éléments coutumiers dans les lettres adressées aux églises?
Peut-être ce qui concerne les cheveux, les vêtements.
Par exemple.
Le voile.
Par exemple.
La nourriture.
Ah, la nourriture.
La nourriture par rapport au sens symbolique.
Ouais.
Tous ces
ouais.
Problèmes qu'elle était confrontée
en
première
Ouais. Sylvain.
Bon, en fait, en général, pas trop de cas de ce qu'est nourriture. Mais si je reprends ta dernière prédication sur acte 15,
ouais.
Une injonction claire qui est donnée aux églises de cette époque de ne pas manger du sang.
Oui.
Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'églises qui pensent que cette décision du Concile de Jérusalem est valable pour tous les temps.
Oui.
C'est pas mon cas, mais c'est un point. C'est intéressant de discuter si on pense que c'est valable pour tous les temps, pourquoi, et si on pense que non, pourquoi.
Alors, pour quelle raison est-ce que ces chrétiens dans Acte 15 étaient enjoints de ne pas manger de sang? D'aliments cuisinés avec du sang. Quelle est la raison? Vous vous souvenez?
Parce que la vie est dans le sang.
Non. La raison d'acte 15, donc ils s'adressent à des païens et ils disent que c'est pour ne pas choquer les.
C'est pour que les juifs et les non-juifs puissent prendre leurs agapes ensemble.
C'est ça. Donc c'est pour pas choquer les croyants juifs. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on est spécifiquement dans ce cas de figure dans des églises évangéliques du 21e? Est-ce que nous avons autour de nous, dans une église locale comme Mérin, beaucoup de croyants issus d'une culture dans laquelle il ne faudrait surtout pas manger de boudin ?
Les musulmans, par exemple, ils n'aiment pas trop qu'on mange du porc.
Est-ce que nous en avons dans une église locale comme Mérin ?
Certainement pas pratiquement, mais ex-musulmans peut-être. Ex-musulmans peut-être.
Alors, je pense que si nous avions une forte représentation de personnes issues de la religion musulmane ou issues du judaïsme, on ferait attention. Mais à contrario, est-ce qu'aujourd'hui, nous pourrions devoir avoir des égards qui ne sont pas spécifiés dans la Bible ? Toujours si on reste dans le domaine alimentaire.
Moi, j'ai des exemples.
Vas-y.
Ben, on essaye, ou des chrétiens locaux qui ont été enseignés comme ça. Donc, voilà, ils n'aiment pas de bière. Bon, je bois de la bière et du vin sans restriction, sinon en quantité, de chez moi. Mais suivant où je vais m'abstenir pour ne pas choquer les gens.
Je crois que dans notre comportement, il ne faut pas être.
Ouais.
Moi je crois que c'est ça. Moi ça me fait rien, c'est pour tout le monde. Fumer une petite pipe de temps en temps, mais ça ne viendrait pas l'idée de la fumer à la sortie de l'église.
C'est ça.
Parce que je ne veux pas être, je veux pas que des jeunes ou moins jeunes soient choqués ou dire mais si le vieux il fait ça, je peux le faire aussi. Et peut-être sans tenue, sans
vin. Okay.
Je donne un exemple.
Merci, mais c'est ce type d'exemple que je trouve intéressant quand on réfléchit d'abord sur la situation au 1er siècle, avec laquelle on est d'accord sur l'enseignement des Écritures, sans être d'accord forcément sur son application au 21e. Et c'est là qu'on entre dans ce qu'on va appeler, nous, tout au long de ce parcours, la théologie pastorale. Avec la théologie pastorale, on peut légitimement s'intéresser à tout, l'organisation, les priorités de l'Église, le rôle d'un pasteur ou des anciens, la gestion des conflits, l'évangélisation, l'administration, la mission, la formation en vue du mariage, la conduite d'obsèques, les collaborations. La théologie pastorale, ça va être une confrontation entre la théorie, la théologie, et l'expérience pratique. Ça va être la mise en route des principes et la mise en cause des principes, les deux choses. La mise en route des principes et la mise en cause des principes. On va essayer d'allier à chaque fois la théorie et la pratique. Alors, en théologie pastorale et dans une série d'ateliers bibliques comme ça, on ne va pas inventer la roue, comme si l'Église, elle commençait avec nous. On ne va pas non plus reproduire servilement tout ce qu'ont fait nos prédécesseurs. Le tout doit toujours être réfléchi à la fois pour être en conformité avec la Bible et tenir compte de l'expérience des chrétiens du passé et de l'expérience des chrétiens d'aujourd'hui. Et là, toute notre pratique est concernée. Ça va jusqu'ici ? Okay. Le terme de théologie pastorale pourrait laisser croire qu'il s'agit uniquement du ministère de ceux et celles qui portent le titre de pasteur. Mais je réfute ça. Nous le verrons plus loin, les professionnels ne sont pas les seuls à porter la charge de l'Église. D'ailleurs, rien que ce soir, chacun, chacune est engagé ici dans une forme de ministère. Donc gardons-nous des excès du professionnalisme, même si je défendrai mon morceau après, je crois que le professionnalisme peut avoir une place. Mais les professionnels ne sont pas les seuls à porter la charge de l'Église. L'Église, elle est composée de celles et ceux qui sont sauvés et qui l'ont à cœur. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce universel. Et le sacerdoce universel, je pense que peut-être Paul Robert, tu le développeras plus dans 3 semaines, mais c'est une valeur essentielle dans notre compréhension ecclésiologique. C'est pourquoi ces soirées de réflexion, elles s'adressent à toute personne engagée ou intéressée dans l'Église. Cette série, elle va nous occuper donc un certain temps, un peu plus d'une saison. La matière, elle manque pas. Et j'aimerais encore une fois nous encourager à participer, à interroger ce qui doit l'être, à proposer aussi ce qui vous tient à cœur au fur et à mesure des sujets abordés. Ça ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Je souhaite la forme la plus souple possible pour que nous puissions aller le plus possible au fond des choses. Et j'aimerais aussi rendre notre pratique pastorale ou ma pratique pastorale la plus lisible possible, la plus transparente possible, et vous laisser toute latitude pour l'interroger, pour la remettre en question. Il y a zéro tabou. Différents aspects donc de la théologie pastorale. Alors je dois avoir ça. Ah mais vous l'avez à l'écran. Différents aspects de la théologie pastorale qui peut donc couvrir plusieurs domaines. C'est Pierre Courtial, cité par un de mes anciens profs qui s'appelait Jacques Dubois. Un gars exceptionnel, Jacques Dubois. C'était mon prédécesseur dans un cours que je donnais à l'IBG, et un homme exceptionnel, Jacques Dubois. Et Pierre Courtial cite six domaines de la théologie pastorale. Donc l'homilétique. L'homilétique, c'est les règles qui régissent la présentation du texte biblique, qui concernent l'annonce, la proclamation de la parole, la prédication. C'est un classement qui peut être discuté, hein, mais un des domaines de la théologie pastorale, c'est l'homilétique. Un autre domaine, c'est ce qu'on appelle l'ecclésiastique, ce qui concerne la vie pratique de la communauté chrétienne, son organisation, les problèmes qu'on rencontre quand on organise une communauté chrétienne, l'ecclésiastique. Un troisième domaine, c'est la liturgique, concerne le culte, concerne les sacrements, concerne le mariage, les services funèbres et toute autre cérémonie hébergée dans une église locale. Vient ensuite la catéchétique. C'est l'instruction des enfants, des adolescents et des adultes, la catéchétique. La nouthétique, ça c'est la confession privée, la relation d'aide, voire la discipline d'église. Et enfin, la poiménique, qui concerne la vie du pasteur, alors ça vient du grec, hein, poimène, le pasteur, concerne la vie du pasteur, sa discipline personnelle, son emploi du temps, les aspects publics, privés, sa vie de famille, son ministère dans l'Église, son rapport avec les autres ministères, les autres communautés. Alors, je ne vais pas vous demander de vous souvenir de ces noms, surtout ceux qui s'inspirent du grec, enfin ils s'inspirent tous du grec, mais ils montrent simplement que le champ couvert par ce qu'on appelle la théologie pastorale ou la vie de l'Église, c'est super vaste, parce que la vie d'Église, elle est ample et parfois complexe. Là, vous le savez. Pour beaucoup de ces sujets, il existe d'excellents livres, de formidables formations, parfois même avec la frais. Mon but ici, il est surtout d'aborder ce qu'on ne trouve pas dans un livre spécialisé ou dans un commentaire biblique, et encore une fois, c'est de favoriser un petit peu l'échange. Est-ce que ça va sur ces six domaines, des questions, des remarques? Est-ce que vous avez l'impression que ça résume assez bien ce qu'un pasteur, ce que des responsables, ce que des gens impliqués dans l'Église vivent, où il manque quelque chose d'important?
Il n'y a pas la polémique.
Je pense que l'aspect polémique peut intervenir dans l'homilétique. Alors je pense que l'apologétique apparaît aussi, à mon avis, dans l'homilétique et dans la catéchétique. Mais tu as raison, ça pourrait être une catégorie complémentaire.
Moi, je trouve que la dernière catégorie, ça n'a pas tellement à voir avec le reste. Tout le reste, c'est l'Église, puis là, c'est le pasteur.
C'est souvent parce que les choses sont liées. Alors moi, j'y reviendrai hein, tout à l'heure. Je pense que la notion de pasteur ne s'adresse pas qu'aux professionnels, j'y reviendrai tout à l'heure. La vie du chrétien engagé, ouais, ouais, ouais. Sylvain.
Oui, bon,
Ouais.
C'est le rapport entre Église et culture et le rapport entre Église et société.
Ouais.
Parce que juste à lire une chose comme ça, on pourrait croire que l'Église, c'est quelque chose qui fonctionne entre soi.
Ouais.
Et puis l'Église est intégrée dans une société, dans une culture. C'est une problématique qui est...
Moi, je le vois dans le poiménique, le dernier, hein, c'est le rapport des croyants, de l'Église, des responsables d'Église, avec les autres. Alors, les autres ministères, les autres cultes, les autres cultures, je le mettrais volontiers là-dedans, mais c'est vrai. Moi, j'ai toujours été impressionné en relisant cette catégorisation que la notion d'évangélisation n'apparaisse pas. Ça m'a étonné.
La prédication.
Ça peut apparaître probablement dans la prédication, ouais.
Bien sûr, tu adaptes une prédication, hein, tu l'as fait ici à plusieurs reprises, en fonction de ça. Mais ça reste la prédication.
Ouais. Et ça reste la prédication de l'Évangile.
Toujours.
Toujours. Je pense qu'une prédication réussie nous ramène à Jésus à un moment donné ou l'autre. Si Jésus est la clé de lecture de l'Écriture, une bonne prédication devrait à un moment donné nous ramener à Jésus. Alors le sujet ou les sujets qu'on va traverser au fil des semaines, il est rendu difficile par la diversité des expériences. Consciemment ou inconsciemment, nous allons tous aborder les questions qu'on va se poser en fonction de notre propre vécu. À cause de mon parcours personnel, quand je pense à ces éléments qu'on va prendre ces prochaines semaines, ben je vais penser instinctivement soit à une implantation d'église en région transfrontalière où nous avons servi une vingtaine d'années, ou alors je vais penser aujourd'hui plus spécifiquement à la vie d'une église qui a 60 ans, qui est multiculturelle et qui se développe dans une banlieue genevoise, Mérin. Mais vous-même, vous avez peut-être un autre parcours. Peut-être pas ce soir, parce que je pense qu'on a des éléments qui nous rejoignent, bien que. Mais vous avez peut-être un autre arrière-plan. Il y a des gens qui ont vécu à la campagne, qui ont grandi dans une église villageoise. Vous avez déjà parlé avec Johan, notre cher président, de son église d'enfance à Balègue. C'est très intéressant. Le contexte est complètement différent de ce qu'il vit aujourd'hui. Ou alors, vous étiez dans une église où il n'y avait que des personnes âgées ou que des jeunes. Vous étiez en Suisse ou vous étiez ailleurs. Vous bénéficiez d'une structure d'église bien établie, un cadre que personne ne vient trop remettre en cause, ou vous étiez dans une situation où tout était à créer à partir de rien. En fait, il n'y a pas deux églises qui se ressemblent, et il faut y ajouter les complexités liées encore à une famille d'églises. Nous faisons partie d'une famille d'églises. La FRE, les AESR, les assemblées, c'est pas rien. Et nous devrons aussi en tenir compte à un moment donné dans notre parcours. Donc diversité des églises, mais il y a aussi la diversité des personnes que nous sommes. C'est génial la diversité des personnes. Nos points forts, nos points faibles, les choses qui coulent de source, les choses que nous trouvons pénibles. Nous sommes plus ou moins doués pour les études, plus ou moins doués pour l'organisation, plus ou moins doués pour les relations. Nous n'avons pas le même vécu familial ou professionnel. Nous n'avons donc pas la même expérience de vie d'église. En vérité, il n'y a pas deux chrétiens et encore moins deux pasteurs qui se ressemblent. Et de la même manière, chaque union d'église va encore avoir sa propre culture maison. Le rôle du pasteur, il sera défini d'une manière particulière. La conception du culte va tantôt s'orienter vers une organisation soignée, tantôt vers une plus grande spontanéité. Pourtant, malgré toutes les différences que nous pouvons constater, je crois qu'il est possible d'avoir une vision commune de l'Église, au moins dans ses grandes lignes, dans ses grandes orientations. C'est une des choses qui me plaît dans nos colloques. C'est qu'on travaille une vision commune d'Église, avec les exigences que ça a. Nous avons le même point de départ, c'est notre humanité. Nous sommes faits de la même pâte humaine que les autres membres de l'Église. Nous exprimons le côté image de Dieu avec tout ce que cette image a de noble, avec tous nos potentiels pour le bien, avec tout l'ancrage dans le monde que Dieu a créé, la vie dans un corps, la vie dans une famille, la vie dans le monde. Et puis nous exprimons aussi le côté pécheur. L'injustice, la frustration, les blessures que nous avons subies ou que nous avons nous-mêmes infligées à d'autres, les craintes, les illusions, les mensonges, les exagérations, le manque de patience, toutes ces choses-là. Nous commençons là. Les gens de l'Église commencent là. Pour reprendre l'expression de Jacques 5, verset 17, « Les hommes ont tous une même nature. » Et puis nous visons tous la même ligne d'arrivée, la gloire. Ça, c'est ce qu'on vise, tous. Entre les deux, ce que nous sommes aujourd'hui et la gloire, entre les deux, ben, nous avons la Bible, nous avons l'Église, nous avons l'action du Saint-Esprit dans nos vies et nous avons des prochains et des prochaines pour nous affiner. L'apôtre Paul se donnait comme but, Colossiens 1, 28, d'amener tout homme à la maturité en Christ. L'apôtre Pierre nous incite, 2 Pierre 3, 18, à grandir dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. On regarde vers lui. Alors, nos ministères, nos engagements, notre implication dans l'Église, quels qu'ils soient, se situent là. Jamais dans la perfection, toujours dans les combats et le progrès possible. On est en route. Vous et moi, on est en route. Et moi, comme pasteur, je ne suis pas comme un entraîneur qui hurle ses ordres depuis le banc de touche. Je suis sur le terrain, avec vous, je subis les mêmes coups durs et je partage les mêmes joies. On travaille ensemble. Est-ce que ça va? On pose deux, trois bases hein, ce soir. Ça va pour vous? Colossiens 3, 28, de mémoire. J'ai tout ça dans mes notes, comme dit, je les envoie volontiers. Quand Beethoven a écrit la symphonie pastorale, c'est la sixième, il n'écrivait pas pour les pasteurs ou au sujet des pasteurs. Dans la symphonie pastorale. Il évoquait par la musique la vie des campagnes et la vie des paysans et des éleveurs. C'est la sixième de Beethoven, symphonie pastorale. Mais c'est intéressant de noter qu'à l'origine, le berger et le pasteur, c'est la même chose. Les images traditionnelles qui représentent Jésus-Christ portant un mouton, un agneau sur ses épaules, ce sont les images qu'on appelle du bon pasteur. Ça vous rappelle quelque chose? Les images du bon pasteur. On disait ça autrefois, hein, le bon pasteur. Jésus portant sur ses épaules un agneau. Alors quand ce n'est pas un titre, le mot pasteur, il a parfois encore cet aspect imagé du travail du berger. Nous pouvons dire que le berger et son troupeau, c'est une réalité qui devient un symbole. Dans l'Ancien Testament, on rencontre quantité de vrais bergers, avec des moutons et des chèvres. Abel, Abraham, Moïse avant de revenir en Égypte, David quand il était jeune, avant de devenir roi, c'était un berger. Puis, par extension, le vocabulaire « berger »,« troupeau »,« faire paître » est utilisé de façon imagée pour désigner une responsabilité non plus envers les bêtes, mais envers les humains. Surtout quand cette responsabilité est celle soit de responsables nationaux, soit des prêtres, soit des généraux, soit des rois. Vous pourrez trouver les références dans mes notes, mais on dit ces mots-là, berger, troupeau, fer, paître, on les dit à propos de David, à propos de Jérémie, à propos du roi de Perse, Cyrus, à propos des chefs d'Édom, à propos des chefs de Babylone et à propos des chefs d'Israël. Ils doivent être bergers, ils ont un troupeau, ils doivent faire paître. Et tous ces dirigeants ont donc un troupeau dont ils doivent s'occuper, pas des bêtes mais des hommes, qu'ils doivent nourrir, protéger, conduire. Certains sont de bons bergers et d'autres sont de mauvais bergers. Mais le berger par excellence, ben c'est le Seigneur. David le disait dans le psaume 23, entre autres. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Un vrai bon berger. Israël est le troupeau de son pâturage. Et en Jean 10, Jésus se décrit comme le bon berger, et il le fait en opposition au mauvais chef d'Israël. Il est le bon berger par rapport au mauvais leader, au mauvais chef d'Israël. Il est ému de compassion pour des gens qui sont comme un troupeau sans berger. Matthieu 9, verset 36. Il confie son troupeau à ses disciples, et d'abord en Jean 21, à Pierre. Il confie le troupeau aux disciples. Et Jésus reste le souverain berger à qui les responsables d'église auront à rendre des comptes. J'y reviendrai. Ça va sur le vocabulaire du berger ? Ok. Le Nouveau Testament, il emploie plusieurs mots pour désigner des responsables dans l'église. Plusieurs mots. Il y a le mot ancien, presbytéroi, dirigeants, épiscopoi, des conducteurs ou encore ceux qui président. Le mot pasteur ou berger, poimen, est utilisé dans ce sens uniquement une fois. On trouve très peu d'occurrences dans le Nouveau Testament de pasteur. C'est quelque chose de relativement neuf. On la trouve dans Éphésiens 4, verset 11. Mais le verbe faire paître, poimano. Ce verbe-là, il apparaît souvent. Et il signifie, dans le vocabulaire, diriger, mener, nourrir, soigner. Diriger, mener, nourrir, soigner. Nous ne sommes pas là en présence d'un mot précis, d'un mot technique, comme notre mot pasteur, mais on est sur un mot qui couvre quantité d'activités. Diriger, mener, nourrir, soigner. Les pasteurs de l'Église, les responsables d'une Église, les ministères dans l'Église dont vous êtes, exercent un ministère de dirigeant, d'ancien, de conducteur. Quand on s'engage en ce sens, on dirige, on mène, on nourrit, on soigne. Mais ce n'est pas le privilège d'un seul homme ou d'une seule femme qui serait le pasteur. C'est le privilège de ceux et de celles qui, comme vous, s'engagent dans l'Église. Ces différents termes que j'ai cités se chevauchent. Je résume par exemple là le discours de l'apôtre Paul en acte 20. Vous vous souvenez peut-être que Paul convoque sur une plage à Milet les anciens de l'Église d'Éphèse, les presbytéroi, les surveillants. Et là, quelques phrases, il les exhorte à bien prendre soin du troupeau, poimonion, sur lequel le Saint-Esprit les a établis comme dirigeants ou comme évêques, épiscopoi, pour le faire paître ce troupeau ou le conduire comme des bergers, dit-il. Vous voyez des termes qui se rejoignent. Il s'ensuit que pour développer le tableau des responsabilités dans l'Église, il ne suffit pas de chercher dans une concordance le mot pasteur, ou le mot ancien, ou le mot conseiller, comme on dit chez nous. Il faut examiner les autres mots qui désignent la même réalité, et il faut s'intéresser aux cas concrets où leur responsabilité s'exerce. Et surtout, surtout, il faut s'intéresser de très près à l'exemple de Jésus, qui est notre lentille de compréhension. Le troupeau, selon Jésus, l'Église, selon Jésus, ne doit pas être dominée, mais conduite et dirigée. 1 Pierre 5, 2 à 3. Parce qu'il appartient au Seigneur, pas au pasteur, pas au prophète, pas au leader, pas au conseil, mais au Seigneur. Si nous avons, vous et moi, des responsabilités dans l'Église, nous le sommes par délégation et nous restons soumis à l'autorité du Seigneur. Ce qui veut dire concrètement que nous sommes soumis à la parole de Dieu et que le Seigneur étant présent dans l'Église, nous sommes aussi soumis à nos frères et nos sœurs. Alors, je crois que deux motivations vont venir stimuler les personnes engagées dans l'Église. Qu'elles exercent un ministère, une responsabilité, une vocation. D'une part, l'amour des brebis et du troupeau, motivé par l'amour du berger. Et d'autre part, et je le dis pour rester loyal par rapport à ce que la Bible enseigne, la crainte de devoir un jour rendre des comptes de notre responsabilité. 1 Pierre 5, verset 4. Moi, je suis de ceux que l'amour motive plus que la crainte. Mais c'est certainement une affaire de tempérament et de culture. Mais deux motivations qui devraient nous stimuler dans notre engagement pour l'Église. L'amour des brebis et du troupeau. Et la crainte de devoir un jour devoir rendre des comptes de notre responsabilité. Et par extension, je dis que tous les chrétiens, toutes les chrétiennes, sont des bergers et des bergères à différents degrés. Parce que nous devons veiller les uns sur les autres. Nous n'avons pas le droit d'esquiver nos responsabilités en disant comme Caïn, suis-je le gardien de mon frère ? Bien sûr que je suis le gardien de mon frère. Bien sûr que je suis la gardienne de ma sœur. Et nous pourrions presque dire que le rôle du responsable d'église, de la personne engagée dans l'église, c'est un renforcement, c'est une spécialisation du rôle fraternel que tous les chrétiens jouent dans leurs rapports les uns avec les autres. Ça va ? Ça pique les yeux, tout ? Non ? On tient le coup encore 10 minutes ? Si nous voulons nous faire une idée du ministère du pasteur, nous ne pouvons pas nous limiter au seul mot de pasteur. Nous devons regarder l'ensemble des fonctions de conduite d'une église. Le pasteur d'Éphésiens 4, verset 11, c'est aussi un enseignant, d'après l'apôtre Paul. L'ancien de 1 Pierre 5 doit prendre soin du troupeau, comme un berger. Un membre du conseil, puis chez nous on a abandonné le mot ancien ou ancienne, un membre du conseil qui est un ancien, doit prendre soin du troupeau, comme un berger. Et sans trahir aucun secret, moi je vois évoluer dans notre conseil, depuis que j'ai le bonheur d'y être, 6 ans, des conseillers et des conseillères qui ont le soin du troupeau, chacun à sa manière. Mais le soin du troupeau, il est là. Et c'est ce que Jésus demande à Pierre en Jean 21, de prendre soin du troupeau. Et vous savez que c'est une immense responsabilité. On pourrait parfois envisager un poste de direction dans une église comme un titre de gloire. Et dans un sens, c'en est un. Parce que servir Dieu, servir une église, il n'y a pas plus valorisant. il n'y a pas plus belle vocation. Malgré les coups de Trafalgar, il n'y a pas de plus belle vocation que de s'engager au service du Seigneur. Mais en même temps, cela doit rester un service. Nous animons, nous présidons, nous dirigeons, nous menons, nous enseignons, non pour nous-mêmes, mais pour le bien des autres, pour le bien du troupeau. Et nous devrions toujours avoir à l'esprit ces paroles de Jésus que je lis en Marc 10, 42 à 45. Jésus dit ceci, « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Et c'est paradoxal. Il est le Seigneur et le Maître, mais il lave les pieds de ses disciples pour leur faire comprendre dans quel état d'esprit ils doivent exercer leur ministère. Et il insiste en Jean 13, trois fois, « Vous êtes heureux pourvu que vous le fassiez. » Trois fois. Pas pourvu que vous en discutiez, pas pourvu que vous vous compariez, pourvu que vous le fassiez. Alors, suivant les églises et les unions d'églises, le rôle du pasteur, des anciens, des conseillers, il est compris différemment. Pour les uns, il n'y a que des anciens ou des conseillers. Un pasteur, c'est un ancien comme les autres, ni plus ni moins. Ou alors, tous les anciens sont des pasteurs de l'Église. Cela correspond au fait que dans le Nouveau Testament, les églises connues du Nouveau Testament ont toujours plusieurs anciens, ou elles vont en avoir lorsque Tite, par exemple, les aura fait nommer. Au début de ce qui est devenu le mouvement des frères, on ne voulait même pas d'anciens dans l'Église. Darby estimait que l'apostasie de l'Église était telle qu'il n'y avait plus de structure valable et que nous ne pouvions que servir le Seigneur entre frères en attendant le retour imminent de Jésus. Quand un peu plus tard, dans les années 1970, la première assemblée de Bruxelles, en Belgique, a nommé des anciens, veuillez croire que c'était une vraie révolution. De plus en plus d'assemblées de ce type se disent aujourd'hui qu'il n'est pas possible de faire progresser une église sans avoir au moins une personne formée théologiquement et disponible à plein temps ou à temps partiel pour la représenter, par exemple auprès des autorités, pour effectuer des visites, pour prêcher, pour organiser. Sylvain. Dans les assemblées darbistes ?
Non, dans les assemblées de frères.
Alors, moi, je parlais vraiment des darbistes, pardon. Mais vas-y, précise un peu, si tu veux bien.
Mais moi, c'est arrivé quand j'étais au fond à Bio.
Ouais.
Donc, je n'ai pas la date exacte, mais je devais avoir une genre de 14 ans. Et je m'en souviens toujours parce que j'avais un oncle qui venait d'une autre assemblée et qui a été extrêmement choqué quand il est venu des anciens. Je vois toujours tourner en rond dans le hall de l'église en se disant que voilà, c'est le moment qui était entré de l'église. Mm-hmm. Parce qu'on avait. Bon, on les avait nommés, on les avait élus. Mm-hmm. Mais ça, donc, c'était. Si j'avais 14 ans, ça fait 1960.
Ouais. Merci. Ouais. Alors, juste Michel, et puis.
Non, je n'ai pas de souvenirs.
Paul Robert.
Ce que vous êtes en train de dire recouvre un tout petit peu.
Oui, je ne vais pas plus loin. Ouais.
Je répéterai, c'est très bien. Enseigner, c'est répéter.
Oui.
Ceci dit, à la pâtisserie, je suis arrivé en 59, j'avais 10 ans, il y avait déjà les anciens.
Ouais.
Qu'est-ce que j'ai eu? Il y a toujours eu des anciens. Je ne te dis pas.
Ouais.
En 1839, la pâtisserie, il y a toujours eu des anciens reconnus. Alors, comment ils étaient élus, tout ça, j'en sais rien du tout. Ils étaient des fois élus par. Ils étaient reconnus comme
ouais,
ça.
Ouais.
Mais c'était des gens qui étaient reconnus. Et en 59, je me rappelle, il y avait des anciens. Et j'avais 10 ans.
Moi, je me rappelle de discussions. Alors, ça date de moins longtemps.
Les frères
Larges, hein. Les frères Larges, oui. Alors. Moi, j'ai plus d'expérience avec les darbistes et des belles expériences. Mais je me rappelle dans les années 2010, hein, donc on remonte moins longtemps que vous, où j'animais régulièrement camp de ski, week-end du jeune à Balègue, enfin voilà, ce genre de choses-là, où alors il se faisait fort de dire nous, on n'a pas de plein temps, on n'a pas de pasteur. Et puis, c'était rigolo, c'était interpellant parce que les jeunes que j'accompagnais sur 3-4 ans, quand ils se mariaient, ils téléphonaient à Villagrand, en fait, pour que je vienne faire leur mariage. Une fois ou l'autre, c'était des obsèques. Et c'était juste l'occasion de dire à certains de ces chers frères, comment on fait dans ces cas-là? Vous dites qu'il n'y a pas besoin de professionnels, mais en même temps, vous demandez un accompagnement, une préparation au mariage sur 12 rencontres pour vos jeunes. On les prend où? Qui est formé pour ça? Sylvain.
Pour ce qui est de la nomination des anciens, de ce que j'ai entendu d'Armand Heiliger, vous pourrez l'expliquer mieux que moi, c'est quand il est arrivé, on lui a demandé d'être pasteur dans cette église, il a demandé qu'on nomme effectivement des anciens, parce qu'il y avait des responsables qui étaient un peu auto-reconnus, mais sans que ce soit...
Et est-ce que Armand, donc, qui a été le premier pasteur ici, c'est juste, c'était Charlie Cortet, ils avaient le titre de pasteur?
Oui.
Ou c'était des frères à l'œuvre?
Non, ils avaient le titre.
Ils avaient un titre pastoral, ok. Ok. Maintenant, si on a un pasteur, est-ce que le pasteur, c'est le chef?
Le bon pasteur.
Je la mettrai après.
Le bon pasteur, on parle.
Uh-huh.
C'est le chef de l'église.
C'est le chef de l'église, ouais.
Avec le
mauvais. Ouais.
Donc, je suis pas d'accord avec ça. Donc, par analogie, vous voyez, le pasteur. Pas d'accord avec ça.
Moi non plus. Ça tombe bien.
Mais par analogie.
J'ai servi 20 ans dans une église qui pensait que le pasteur était le chef de la communauté. Et je suis très à l'aise aujourd'hui de ne plus être dans ce format-là. Très à l'aise d'être un employé de l'église. Et un ancien parmi les autres. Et pas forcément celui qui tranche les débats. Ça peut arriver, hein. Mais c'est pas obligé. Et je ne voudrais plus aujourd'hui, par conviction absolue avec les Écritures et mon expérience d'Église, je ne voudrais pas être un pasteur-chef. Et je pense que ce serait malsain qu'une Église comme Mérin, mais qu'en général, les Églises ont des pasteurs-chefs. Je crois vraiment que c'est malsain. Sylvain.
Exerce une espèce d'autorité morale qui aiment ça, qui ont besoin de ça. Moi, je pense que c'est pas très simple, mais voilà, c'est plus subtil que juste l'autorité de hiérarchie ou d'organisation.
T'as raison, c'est plus subtil. Ça doit l'être, heureusement. Mais même la question de l'autorité qu'on exerce sur les autres, elle doit être interrogée. En vertu de quoi j'aurai une autorité morale? Demandez à ma femme, elle me connaît pour de vrai dans la vraie vie. Est-ce que j'ai de quoi avoir une autorité morale? Je pense que j'ai le privilège d'avoir une formation, d'en connaître ici ou là un peu plus, parce que 4 ans de formation, ça compte. Mais une autorité morale, moi je suis en route avec vous. De temps en temps, c'est vous qui devez me dire « ça va pas là, tu t'enfonces dans les orties ». Puis parfois, c'est moi qui dois le dire. Mais il y a une réciprocité qui me semble importante et être une protection pour l'Église par rapport à une Église qui aurait un chef ou, comme on dit aujourd'hui, je supporte plus ce mot, mais un leader.
Ouais. C'est pas que dans un sens. Les gens, ils peuvent.
Oui.
Je dis c'est bien dans les deux sens parce qu'il y a des gens qui ont envie d'avoir quelqu'un qui leur dit ce qu'il doit faire.
Oui, tu peux pas forcément l'empêcher. C'est-à-dire, si la personne elle a envie d'être influencée et de penser que ce que tu dis c'est toujours vrai et toujours voilà, tu peux pas l'empêcher de penser ça. Enfin, difficilement.
Ça fait penser à l'Israël qui disait donne-moi un roi.
Ouais.
On veut un roi. Et le pasteur, donc toi par exemple, c'est vrai que c'est très difficile quand beaucoup de gens tournent tous les regards vers toi, attendent de toi et ont envie de te mettre un peu
sur un piédestal.
Sur un piédestal, tu vois ce que je veux dire. Moi j'ai entendu une fois une dame qui disait à ses gosses, ici celui qui sait, qui va, elle est là, pour tout, c'est le pasteur. Écoute que lui. Donc alors tous les autres frères. Mais moi, ça m'avait frappé, ce que j'avais entendu comme ça, à côté. Je trouve que souvent, c'est les gens qui ont besoin de ce leader. D'ailleurs, on suit facilement. On le voit quand même des pasteurs, des orateurs, des grands, tout à coup, ils vont dans une salle, c'est plein. Mais pour le mec, c'est vraiment difficile. Garder l'humilité là, alors que tout le monde a envie de dire qu'est-ce que t'en penses, et puis conduis-nous, on te suit. Alors ça va des grosses choses comme ça, puis il y a plein de petites choses. On vient tout te demander. Et si toi tu ne sais pas, ou le pasteur ne sait pas redistribuer, il s'épuise, il devient roi, il s'épuise, et un jour la couronne.
Elle tombe, Merci. Je trouve ça. Vas-y, Elisabeth. Oui.
Le pasteur. Quand on parle de toi, c'est le pasteur. C'est lui qui est.
Ouais.
C'est lui qui est responsable de tout. Enfin, c'est beaucoup plus que quand on parle avec les gens de pasteur. C'est pas ça.
Il est piégé, ce terme, le pasteur, quelque part, avec tout ce qu'on connaît dans notre région. Notamment dans l'église protestante, Vaud, Genève et ailleurs, le pasteur, tu dis ça. C'est le pasteur. Il y a un conseil.
C'est
le pasteur, si c'est le pasteur, c'est le pasteur.
Mais pas surtout, parce que des fois, les conseils de paroisse, ils se gardent des précarés, où certaines choses, c'est eux qui décident, et puis le pasteur n'a pas trop son mot à dire. Ils ont aussi leur.
On fait une généralité, là.
Moi, je trouve très important qu'une. Pardon.
Oui, ça, c'est le pasteur qui donne le culte, c'est le pasteur qui fait.
Mais je trouve très important dans une église comme Mérin, où je trouve que les choses sont vécues sainement, qu'on définisse ce qu'on attend et ce qu'on n'attend pas d'un pasteur. Moi, je serais plus à l'aise aujourd'hui, je ne serais plus à l'aise aujourd'hui, avec l'idée d'un pasteur leader et chef absolu. En tout début de carrière, et en particulier quand tu finis un stage qui a duré 3 ans, tu trépines d'impatience d'être celui qui dit comment il faut faire. Et très vite, je me suis rendu compte à cette époque, très vite, c'est piégé, c'est cuit. Si tu es tout seul à dire ce qu'il faut faire, c'est mort. Tu tomberas dans tous les pièges. Mais effectivement, parfois on doit composer avec des gens qui attendent que nous soyons leur leader, leur conseiller spirituel. Et enfin pour moi, dans ces cas-là, parce qu'on le distingue vite, hein, il n'y en a pas ce soir dans cette salle, il s'agit vraiment de se mettre en retrait et de conduire vers celui qui sait. C'est là que je trouve que la motivation de l'apôtre Paul, Colossiens 1:28, hein, que j'ai lu tout à l'heure, il se donne comme but d'amener tout homme à la maturité en Christ. Cette motivation-là, elle devrait être partagée non seulement par les pasteurs, leaders, machin, tout ça, mais par chacun d'entre nous qui marchons avec le Seigneur. C'est d'amener nos frères et sœurs à la maturité en Christ. Et ça, des fois, c'est l'affaire d'une vie. On commence des fois tout petit, et puis d'autres, on va plus vite, plus loin. Mais en tout cas, je remarque que notre image du pasteur, elle reste faite de toutes sortes de choses, qu'on est influencé, et je termine avec ça, par les modèles que nous avons eus, ou que nous avons sous les yeux, dans l'église, ou dans les églises que nous avons fréquentées, mais que nous avons peut-être envie d'apporter aussi des corrections à ce modèle à cause de ce que nous lisons dans la Bible ou de ce que nous voyons dans la pratique. Alors je conclue avec ma deuxième slide, et merci encore Sylvain d'avoir remis ça en ordre. Dans les milieux traditionnels, le pasteur exerce avant tout le ministère de la parole, c'est mon cas ici. Mais de nos jours, je vois les rôles pastoraux évoluer, où on attend effectivement d'un pasteur qu'il devienne le principal animateur de la vie d'une communauté. Alors je vous pose la question, et on peut finir avec un peu de discussion là autour. Si vous deviez trouver de nouveaux mots pour désigner la fonction du pasteur, lesquels choisiriez-vous? Et quelques-uns sont proposés à votre réflexion, vous pouvez en ajouter. Mais si vous deviez trouver de nouveaux mots pour désigner la fonction du pasteur, lesquels choisiriez-vous?
Il y a déjà des mots qu'on pourrait supprimer.
Alors,
Donc merci. L'administration peut très bien être faite par des frères, des sœurs qui sont doués dans ce domaine, mais que ce soit pas le pasteur. Je parle d'administration, c'est les comptes, les machins, les lettres, enfin bref, tout ce qui est administratif. Mm-hmm.
Merci.
Combien de pourcents de ton temps d'administration?
Alors, dans le dernier relevé mensuel, je crois que c'est environ 28% de mon temps. Et je suis bien déchargé, par exemple, par Denise, qui relève le courrier, qui l'ouvre, qui le trie, qui le distribue. La relecture du programme est assurée fidèlement par Elisabeth. Je suis déchargé de certaines tâches, et pourtant, il y a presque un tiers de mon temps qui passe dans la coordination ou l'administration.
Les fameux diacres dans les actes, je ne sais pas si c'est tellement d'administration qu'ils faisaient, parce que même qu'ils avaient cette avaient, des gens qui n'avaient pas grand-chose. Est-ce que c'est...
Mais est-ce que ça existait, l'administration, à l'époque? Pas
c'était,
ouais.
C'était
pas, en tout cas, pas comme nous. Quoi.
Non, il y avait un excès.
Ils n'avaient pas d'un cloud.
C'est un problème très humain hein, d'essayer de rétablir la justice sur la communauté.
Un gendarme, c'est toi qui vas dire aux enfants qu'ils ne jouent pas sur la scène, c'est toi qui vas le faire.
C'est pas moi qui le fais, c'est les responsables des potes. Mais on pourrait imaginer le rôle de gendarme de temps en temps pour autre chose. Hein,
ouais. La discipline dans l'église,
ouais.
Je veux pouvoir exercer
ouais.
dans l'amour, la fraternité.
Ouais.
Bref, c'est pas une seule personne, à mon avis.
Non,
c'est,
bah non.
C'est un conseil. Voilà, un conseil, les anciens, des gens comme ça qui peuvent aller vers un frère. Quoique la Bible dit aussi que si tu vois ton frère qui
oui.
va le trouver.
Ouais. Mais si ça marche pas.
Mais si ça marche pas, tu viens avec deux ou trois.
Puis si ça marche pas.
Te fous dehors.
Dis-le à toute l'église.
Hein?
Dis-le à toute l'église, ouais. Matthieu 18. Mais on aura un sujet spécifique voilà. sur la discipline d'église.
Mais quand on est gendarme, je ne dis pas que le pasteur, en l'occurrence, comme on le voit, ne doit pas être associé à un acte de discipline avec des anciens et tout. Parce qu'il a peut-être des connaissances théologiques que d'autres n'ont pas, je ne sais pas. Mais, non, gendarme, c'est un mot que.
Que tu ôterais, toi.
Ah oui. Ouais. Pasteur.
Jacques. Ouais.
D'abord père, enseignant et visionnaire.
Ok. Est-ce que tu peux définir père? Qu'est-ce que tu mets là derrière?
Ben, comme un père doit s'occuper de ses enfants okay. avec amour, avec okay. comprendre les enfants, discuter avec eux.
Wow. Ouais.
C'est ça que je mets là.
Ouais. Père, visionnaire et
enseignant.
Pas physiquement. Mais sinon, tu fais tout ça. Mais ça voudrait dire qu'en fait, normalement, un ancien, il devrait, enfin, le collège d'anciens ou de conseillers, il devrait aussi se partager toutes ces fonctions.
Je pense que plus elles sont toutes celles-là réparties dans l'Église, mieux c'est.
Ah ouais.
Dans l'idéal. Mais voilà, si on réfléchit à la fonction pastorale. Ben, un permanent associatif, c'est quelqu'un qui travaille pour une assos, souvent à moindre coût, puis qui fait un petit peu de tout, en lien avec les autres associations. Par exemple, quand on nous sollicite là pour le rallye Ethnopoli, l'organisation, où je suis très à la traîne, Sylvain, l'organisation d'Ethnopoli pour cette année, si on y arrive, c'est un rôle de permanent associatif. Tu participes à des séances. Je participe à des séances de préparation avec des représentants d'autres associations qui ne sont pas cultuelles. Et eux ont le titre de permanent associatif. Et moi, j'y vais en tant que pasteur, mais tous les autres sont permanents associatifs. Et ils gèrent leur assos. C'est par exemple ça. Donc je le fais de temps en temps, ouais. Merci. Transmission de la foi.
Transmission de la foi.
Ouais.
Waouh. Wow.
Waouh. Transmission de la foi. Qui passe par quelle activité? Non, 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 c'est pas un piège. Je trouve très intéressant. Non, c'est pas un piège.
C'est-à-dire qu'il doit vivre sa foi déjà.
Voilà. Ok. Ben ouais.
Il doit être en relation avec Dieu. Ben c'est une relation qu'il ouais. a avec Dieu qu'il va pouvoir transmettre.
Ouais. Ouais. Merci. Sylvain ?
Il y a un mot qui n'apparaît pas, mais qu'on peut mettre sous un autre. On pourrait mettre sous le mot psychologue. Tout ce d'accompagnement, aux relations d'aide, on appelle de différentes. On appelle de différentes manières, mais je pense que ici, toi et Célina, vous faites beaucoup de ça, d'accompagner,
oui.
Accompagner les personnes. Et c'est pas tout à fait une psychologue spécialisée, mais ça en a quand même une partie des caractéristiques. Oui. Parce qu'il faut, voilà, il faut les mêmes qualités qu'un psychologue, à savoir de l'empathie, de la compréhension.
Et c'est là qu'il faut aussi bien connaître ses limites quand on aborde ces disciplines-là, qu'on détaillera hein, dans la suite de notre survol. On va aller dans le fond des choses. Mais par exemple, on n'a pas le droit de pratiquer quelque chose qui se rapproche de la médecine. La loi nous l'interdit formellement. La pratique illégale de la médecine est heureusement punie. Mais un pasteur leader, comme j'en ai connu ailleurs, qui invoque l'œuvre du Saint-Esprit pour chasser une maladie et qui déclare que cette maladie est désormais chassée, il flirte avec la pratique illégale de la médecine. Il faut être très clair. Un pasteur qui s'improvise psychologue dans une situation de détresse psychologique, il prend des risques. Il joue avec la santé des gens. Il y a des métiers, je veux dire, les gens ils se forment comme psychologues, comme psychiatres pendant des années et des années, ça demande des compétences. Un infirmier, Chantal, elle est spécialisée dans les plaies par exemple, on ne s'improvise pas soignant dans l'église. Michel. Ouais. Alors comment il peut dire je suis le bon berger? Ah lui il le dit de lui. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est l'apothéose. Non. En tout cas pas un berger de troupeau. Enfin. Mais quand le Seigneur Jésus affirme qu'il est le bon berger, moi je pense qu'on a une définition parfaite du berger, qui prend soin, qui nourrit, qui accompagne, qui a de la compassion, qui est exemplaire, qui montre son Père.
Sens de la parole, du retour, de l'humour peut-être. Tu vois, il faut, comme tout, c'est pas absolument nécessaire, mais c'est vrai que j'ai vu des pasteurs qui sont toujours en crise quand ils parlent, toujours peut-être comme ça. Il faut qu'on ait envie de dire, stop, c'est bien, quoi. Ah ben, non, mais les jeunes, les moins jeunes, ouais. les vieux, tout le monde. Alors, pas que le pasteur, mais que tu parles du pasteur. Je pense quand même qu'il faut qu'il ait le don, un don de présence à l'autre.
Ouais.
Un peu comme un enseignant. Pourquoi il y a des jeunes qui parlent de l'enseignant? Ils en ont parlé, mon prof de français à l'époque, c'est lui qui m'a orienté. C'était un prof formidable. Puis d'autres enseignants sont tristes. Ils vont au cours machin, même si la matière t'intéresse, pour finir. Tu vois, il y a ce don d'entraîneur.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Non,
il n'y a pas entraîneur, il y a coach.
Oui, coach. Mais coach, c'est très directif. L'entraîneur aussi. Mais moi, j'ai entraîné à sa suite. D'ailleurs, le berger, très souvent, il marche devant son troupeau. Pas derrière. T'es juste. Bon, des fois, il y a des chiens qui vont devant.
Ouais.
Il marche devant. Et les moutons suivent. Ils entendent sa voix. Ils le connaissent. Pour ça qu'on. Jésus, il a de l'amour.
Philippe.
Il y a un terme qui en abondance, un ou deux, je mettrai. C'est un pédagogue, c'est-à-dire un enseignant modèle. Un enseignant qui met lui-même en pratique dans sa vie ce qu'il enseigne.
Ouais.
Ce qui lui donne de l'autorité naturelle. Moi, je suis assez sensible à ça. Enfin, j'étais à l'époque de ma splendeur professionnelle. Quand on allait dans des cours, quand on allait se farcir des cours à ne plus finir, on avait tout à coup un enseignant, on avait l'impression de comprendre la matière, parce qu'il était capable de l'incarner. Et ça, je trouve que c'est magnifique. J'ai suivi une fois un séminaire d'un certain Alain Issus, qui est un théologien, que tu connais sans doute. Il avait pour thème l'autorité dans l'Église. Et disait, nous disons et nous nous gargarisons du fait que Jésus est la tête de l'Église, le chef, la tête, le chef capital. Jésus est le chef de l'Église, mais par qui son autorité s'exerce-t-elle dans l'Église? Et cette question-là, moi je la trouve intéressante.
Ah ouais.
La conférence parlait de ça. Donc pour moi, pédagogue, modèle.
Merci. Oui, j'aime bien vos remarques, j'écoute, ça tourne en même temps. Hein. Autre remarque sur ces appellations? Ok. Alors, je le crois, ouais. Et je pense qu'une des grandes forces de l'église de Mérin, en particulier quand nous l'avons rejoint, une des grandes forces que nous avons découvertes, c'est cette répartition sur plusieurs personnes des responsabilités, des dons, des ministères. Et pas une concentration sur quelques-uns. Comme on l'a dit avec Célina lors du colloque, je crains qu'on puisse perdre ça assez vite. Je pense que les 2 ans et demi de Covid n'y sont pas pour rien là-dedans non plus. Mais c'est une valeur qu'on pourrait perdre dans le temps courant. Cette idée d'une responsabilité partagée entre plusieurs. Et je crois que nous perdrions beaucoup si on devait le perdre. Alors je m'adresse à des convaincus, je le sais. Et c'est pour ça que j'ai la liberté de vous le dire comme ça aussi, c'est que c'est un vrai fardeau. De ce côté-là, notre église locale de Mérin, en l'espace de 6 ans que je vous ai rejoint, elle a beaucoup changé.
Le pasteur, il est reconnu, on va faire une chrétiens, on va prier pour eux une fois qu'ils sont élus et tout. Puis les autres, ceux qui veulent dire des ministères d'évangélistes, de visites, peut-être que toi tu es au courant de X personnes, mais pourquoi ces gens-là ne sont pas reconnus? Pourquoi on ne réunit pas non plus un peu ces gens-là un peu plus? Pourquoi j'ai des fois l'impression que les anciens viennent de tout en eux-mêmes, sans jamais faire appel. Daniel Schumann.
Non, il n'est pas là. Non.
Ouais, il avait dit, et moi je l'avais dit aussi, j'ai proposé plusieurs fois, s'il y a quelque chose qu'on peut partager ensemble, en tant qu'ancien conscient, on peut aussi peut-être apporter quelque chose. Ou d'autres personnes qui ont un don. Mais comment on reconnaît dans notre église, ici à Mérin, les dons des personnes, sans en faire des héros. Des héros aussi peut-être. Tu vois, il y a quelque chose là qu'il faut retrouver.
Ouais.
Mais la personne doit quand même être reconnue. Sans que ça lui monte à la trône, il faut que ça puisse lui l'aider, je ne sais pas comment, qu'elle se sente utile, reconnue, utile. Alors, pas tout le monde comme ça, mais des moniteurs d'école du dimanche particuliers, etc. Alors, il y en a un ou deux qu'on connaît bien, puis d'autres, on les connaît moins bien. Et puis, voilà.
Ceux qui exercent leur don.
C'est ça, ceux qui exercent leur don.
Je parle un peu particulier, alors, parce que sinon, on connaît tout le monde.
Jacques ?
Il y a peut-être aussi des personnes qui exercent leur don, mais qui n'ont pas envie qu'ils soient reconnus, être glorifiés, être mis sur un piédestal, ils le font ça tranquille.
Oui.
Dans la prière, peut-être des petites visites, etc. Puis ils n'ont pas envie que tout le monde le sache.
J'en connais qui me disent qu'ils s'appliquent ce que le Seigneur disait sur la libéralité, que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. Et on a aussi, y a aussi des gens qui ont ce souci-là. Maintenant, je crois vraiment que le souci n'est pas aujourd'hui d'avoir tellement de gens qui ont tellement de temps et d'envie et de compétences qu'on ne sait plus quoi en faire. On est plutôt à l'inverse de ça. On est plutôt en train de dire, purée, t'aurais pas une heure à m'accorder, quoi. Ou tu serais pas d'accord de t'engager pour un semestre, même pas un trimestre à la garderie. Ou à la présidence, ou à la musique, ou pour compter l'offrande, ou pour l'évangélisation. Alors sur un one-shot, comme t'as fait samedi, ça marche plus ou moins. Parce qu'on est sur un coup. Mais la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt l'engagement dans la durée. Et c'est quelque chose qu'on voit dans l'Église, mais dans une bien moindre mesure que ce qui se voit dans les administrations et dans les entreprises. Allez parler avec des recruteurs qui disent, moi, des gens qui travaillent à plein temps, il n'y en a plus. Ils ne veulent pas. On veut aménager notre temps. Ce qu'on vit dans les sociétés privées qui sont super compétentes dans ces domaines-là, nous, on a plus de peine à le gérer. Est-ce qu'on arrive à dire à quelqu'un qui serait intéressé par le conseil, viens, puis tu fais 6 mois. 6 mois, c'est court pour se mettre en route et pour terminer. Même un mandat, moi, je trouve que c'est super court. Donc, on est plutôt devant ce genre de défi. Par contre, je crois, quand on voit des dons, des talents s'exercer, il faut les valoriser, il faut les remercier, il faut les... Voilà, je crois que c'est à encourager. On peut faire mieux dans ce domaine-là.
J'ai jamais parlé de ça. Je parle de service. Ces personnes, plus tard, qui veulent tellement être distraites qu'on ne les voit pas, mais qui font peut-être des tas de choses, elles ont fait des dons que l'on pouvait utiliser, mais on ne sait même pas.
Oui, mais c'est de l'histoire, comment tu veux savoir.
On est appelé à servir en fonction de nos dons et de ce qu'on a. C'est aussi biblique, je crois. Et puis, les anciens notamment sont appelés à reconnaître les dons. Mais pas pour les garder pour eux, pour rien dire, mais pour dire que tiens,
tu ne peux pas aller taper sur la tête d'une personne qui n'a pas envie de le dire.
On est d'accord. On peut peut-être lui réexpliquer ça. Le partage, c'est dans le cadre du partage. Parce que j'en ai un.
Non, mais vous pourrez prolonger après, il n'y a pas d'apéro, mais c'est pas grave.
Plus souvent dans la situation d'avoir du mal à trouver des personnes.
certaines personnes qui ont été dans le conseil avant peuvent avoir l'impression de ne pas, pas réussir à s'engager ou à savoir ce qui se passe comme quand ils étaient au conseil. Ça, c'est, maintenant, c'est peut-être aussi un problème de communication.
Je pense qu'on peut en tout cas mieux faire, mais qu'il y a un vrai défi sur la répartition des ministères dans l'Église entre nous. En tout cas, il est 21h40. Merci beaucoup pour votre intérêt et votre implication. Nous, on se retrouve dans 3 semaines avec Paul Robert, et ça va être passionnant sur le réveil de Genève. Moi non plus, je pense. Alors, donc,
j'ai préparé mon truc, mais il y a
certainement un temps pour vous parler. Donc,
merci de le mettre en exercice, on te reconnaîtra.
C'est long, hein.
Merci beaucoup. J'aimerais juste prier avant qu'on se sépare, si vous voulez bien. Cher Seigneur, merci pour la soirée que nous avons eue ensemble. Nous aimerions, nous espérons qu'elle portera du fruit, Seigneur. Et que dans notre église locale, des dons, des talents, des vocations trouveront à s'exercer pour le bien de l'église et notre rayonnement, notre témoignage aussi. Merci de prendre soin de nous comme tu le fais, de nous raccompagner à la maison et puis de nous accorder la nuit de repos dont on a besoin. Dans le nom de Jésus, Amen.